Parfois, on entend dire que la vie est mal faite ou qu'elle n'est pas juste, et c'est bien vrai. Souvent, les calamités frappent à l'aveuglette, et il y a des gens qui semblent attirer les malheurs comme un aimant le fer. Un jeune qui a trop bu enroule sa voiture autour d'un arbre et tous les occupants sont tués sur le coup. Un autre fait le même écart de conduite, mais sort indemne de l'accident. Un sursis de vie lui est accordé. Dans le domaine spirituel, c'est un peu pareil. Certains se moquent de Jésus, mais ont droit à une seconde chance, et puis une autre, et encore une autre. D'autres, qui refusent de l'accepter, n'auront plus jamais cette opportunité, et la porte des cieux leur est définitivement fermée. Je continue à lire dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Il est impossible que ceux qui se sont détournés de la foi soient encore renouvelés et amenés à la repentance, à changer d'attitude, car par leurs actions, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Verset 6. Ce passage concerne particulièrement les Hébreux et prosélytes de religion juive, parce que ce sont eux qui ont demandé au gouverneur Pilate d'exécuter Jésus. Les païens ne sont pas concernés, car même si dans leur religion ils immolent des animaux, ces sacrifices idolâtres sont pratiqués dans l'ignorance et non pas dirigés contre Jésus. Seuls des Juifs pouvaient donc être accusés de crucifier de nouveau le Fils de Dieu. Le mot pour « renouveler » veut dire « restaurer » ou « remise à niveau ». Si les Hébreux qui ont compris en quoi consiste le message de la bonne nouvelle prennent la décision de rejeter Jésus comme leur Messie et de retourner aux pratiques du judaïsme, Dieu ne leur permettra plus jamais de changer d'avis et de se repentir. Ça paraît sévère, mais il faut bien comprendre la gravité de leur geste. Non seulement ils rejettent le Christ, mais en retournant au temple pour offrir des animaux en sacrifice, ils se rendent doublement coupables. Premièrement, ils déclarent que Jésus n'est pas le Messie et donc un imposteur qui méritait d'être crucifié par les Romains. Deuxièmement, en allant immoler un animal au temple de l'Éternel après avoir compris la signification de la croix, c'est déclarer publiquement que le sacrifice de Jésus ne vaut rien. Plus loin, l'auteur écrit « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si deux ou trois témoins déposent contre lui. » À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? L'apôtre Pierre, dont le ministère était surtout auprès des Juifs, parle aussi de ceux qui ont compris qui est Jésus et qui l'ont rejeté, et il est tout aussi virulent que l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il dit « Si, après s'être arraché aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la sévérité, il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. » Fin de citation. Les Hébreux qui sont sur le point de retourner leur veste et à qui l'auteur s'adresse, ne sont pas les seuls dont la culpabilité est immense. En effet, beaucoup de Juifs ont vu les miracles de Jésus et en ont profité. Ils ont mangé du pain et des poissons venus de nulle part, et pourtant ils n'ont pas cru en lui. Et la foule qui, le jour des rameaux, a crié « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur !» on la retrouve quelques jours plus tard devant le palais de Ponce Pilate, vociférant « Crucifie-le! Crucifie-le! » Je continue le texte aux Hébreux. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, elle est bénie de Dieu. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle est désapprouvée et rejetée, et proche d'être maudite, et dans ce cas, on finit par y mettre le feu. Verset 7 et 8. Toute personne qui entend la bonne nouvelle de Jésus est comparée à une terre agricole. La semence est jetée et germe grâce à la pluie. D'un côté, le champ cultivé produit du bon fruit, mais de l'autre, il engendre des épines et des chardons. Cette différence n'est due ni à la semence, ni à la pluie, mais à la terre. J'ai eu l'occasion de travailler dans la vigne de mon grand-père et dans celle d'un ami. Et chaque fois, il fallait arracher des ronces, et je me demandais toujours d'où elles venaient. Elles poussaient toutes seules sans avoir été plantées. J'ai même vu des vignes qui étaient tellement envahies de ronces qu'il était tout à fait impossible de les arracher, il y en avait trop. La seule solution était d'attendre qu'elles sèchent et de les brûler. Dans l'analogie de l'auteur, le jugement de la mauvaise terre se fait en deux temps. D'abord, elle est réprouvée, c'est-à-dire rejetée parce que inutile. Le mot ainsi traduit signifie littéralement « qui échoue à un examen ». Il était surtout utilisé pour les métaux dont on testait la dureté ou la malléabilité. L'apôtre Paul utilise ce mot en parlant de son ministère quand il dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié », dans le sens de désapprouver et rejeter. Il faut bien voir qu'il parlait des fruits de son ministère qui seraient examinés par le Seigneur et que s'il passait son test, lui, Paul, recevrait une récompense dans les cieux. Ici, l'auteur dit à ces Hébreux qui hésitent à s'engager pour Jésus-Christ qu'ils désapprouvent et rejettent leur comportement. Mais si suite à cette lettre qui leur est écrite, ils persistent, ils seront maudits, c'est-à-dire que la porte des cieux leur sera définitivement fermée. Je continue le texte. Mes bien-aimés, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous manifestez des caractéristiques meilleures et favorables au salut. Verset 9. L'auteur s'adresse maintenant non plus à des Hébreux sur le point de devenir apostats, mais à des bien-aimés, un terme qui dans les Écritures désigne soit Jésus, soit des vrais croyants. Alors qu'auparavant, l'auteur a mentionné 6 caractéristiques qui font partie du fondement de l'Ancienne Alliance, maintenant il va parler des fruits du salut que portent les disciples du Christ. Jésus a dit à ceux qui le suivaient, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Les fruits du salut ne se manifestent pas au travers de rites religieux, mais par une vie intérieure transformée par la maturité morale et spirituelle et la pratique d'œuvres justes devant Dieu. En appelant les véritables croyants mes bien-aimés, l'auteur leur dit en substance « Les paroles dures que je viens d'écrire ne s'appliquent pas à vous. » Il veut les rassurer parce qu'après avoir lu ces avertissements terribles, ils se demandaient peut-être s'ils étaient concernés. Je continue le texte. « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Verset 10. ce qui lui appartiennent est une traduction du mot grec saint, mais on ne l'emploie guère à cause de sa signification dans l'Église catholique romaine. Au premier siècle, tous ceux qui plaçaient leur confiance en Jésus étaient appelés saints, qu'ils soient ou pas fidèles au Seigneur. Le mot saint veut dire simplement séparé, mis à part pour Dieu. Il définit une identité et non pas quelqu'un qui aurait atteint un certain niveau de maturité, accompli un prodige ou mené une vie exemplaire. Dieu le Père considère tous ses enfants comme son propre fils et pour cette raison, tous les croyants sont saints à ses yeux. L'auteur rappelle aux saints que Dieu les connaît et qu'il note les efforts qu'ils fournissent par amour pour lui. En effet, d'une part, les noms de tous les croyants figurent depuis toute éternité dans le livre de vie, et d'autre part, ils recevront des récompenses qui seront fonction de leur fidélité. Je rappelle que les bonnes actions d'un croyant n'ont jamais pour but d'obtenir ou de maintenir le salut, mais elles en sont les manifestations. L'apôtre Jacques écrit « Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Et l'apôtre Paul écrit aux membres d'une église qu'il est convaincu que ce sont des croyants authentiques en raison de leur foi agissante, de leur amour actif et de leur ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître souligne ici l'amour des croyants hébreux pour Dieu qui se manifeste par des actes concrets envers ceux qui croient en Jésus. La clé du service chrétien est donc d'abord d'aimer Dieu, car c'est cet amour qui permet d'aimer et de servir les frères et sœurs, même quand ils ne sont pas très aimables. Ceux qui aiment véritablement le Seigneur auront aussi de l'amour pour les croyants. L'apôtre Jean écrit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. D'après l'enseignement du Nouveau Testament, le service chrétien revêt plusieurs formes. Premièrement, les croyants doivent mettre au service des autres les dons spirituels que le Saint-Esprit leur a donnés, comme par exemple l'exercice de la sagesse ou de la miséricorde, l'enseignement ou la prédication, ou encore la prière. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » À l'intérieur du cadre des communautés chrétiennes, les croyants sont aussi appelés à veiller les uns sur les autres, à s'encourager mutuellement, à soutenir les faibles, à pourvoir aux besoins des indigents et à bien d'autres responsabilités encore. Je continue le texte. « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Versets 11 et 12. L'auteur s'adresse à de vrais croyants hébreux qui vacillaient dans leur foi et les exhorte à persévérer jusqu'au bout en conservant le zèle et l'empressement qu'ils avaient au début. « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. » Le mot grec pour « relâcherez » est le même que celui qui a été traduit par « lent » quand l'auteur, parlant de Melchizedek, a dit « C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenu lent à comprendre. » Je continue le texte. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Versets 13 à 15. Page après page, les textes sacrés exhortent les hommes à faire confiance à Dieu. L'exemple type de la foi est Abraham, au point où l'apôtre Paul l'appelle le père de tous ceux qui croient et écrit que seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. L'auteur de cette épître présente Abraham comme le modèle à imiter quand les circonstances sont défavorables, quand on doit faire face à l'adversité, aux incertitudes et même à des impossibilités. C'était bien la situation des Hébreux puisqu'ils subissaient des pressions et même des persécutions de la part de leurs compatriotes. Abraham, l'ancêtre des Juifs, est aussi le père de tous ceux qui croient. Il a été déclaré juste par Dieu sur la base de sa foi, bien avant que Dieu ne fasse alliance avec lui par le biais de la circoncision, et environ 5 siècles avant que la loi de Moïse ne soit donnée au peuple juif. Depuis toujours, l'homme acquiert le statut de juste par la foi et jamais au moyen d'un rite religieux ou de bonnes œuvres. Abraham est un homme hors du commun. Son histoire commence en Mésopotamie, dans l'ancienne ville de Ur. Descendant de Sem, l'un des 3 fils de Noé, Abraham était un païen moyen qui adorait des fausses divinités. Puis un jour, l'Éternel lui a parlé et lui a dit « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Et il est parti pour partir, car comme le dit l'auteur un peu plus loin, il est parti sans savoir où il allait. L'Éternel lui a aussi fait des promesses disant « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Fin de citation. Pour compliquer ce tableau, Abraham était sans enfant, et sa femme Sarah était stérile. On ne sait pas comment Dieu s'est manifesté à cet homme, mais Abraham a bien compris ce qu'il devait faire et a obéi. Il a quitté son pays natal, sa ville et ses amis, alors qu'il avait 75 ans. Il fallait quand même le faire. Abraham était de la même trempe que Noé qui a construit un énorme bateau au sommet d'une colline. Après la naissance d'Isaac, l'Éternel a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de le sacrifier. Là encore, il a obéi, comme l'auteur le rappellera plus loin, et si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait tué son fils. La foi d'Abraham n'était pas irrationnelle, mais reposait sur le caractère de Dieu. Cela veut dire que lorsque l'Éternel fait une promesse, il s'engage, il met en jeu son nom et sa personne, qui il est. Dans la deuxième moitié du chapitre 6, l'auteur va expliquer pourquoi Dieu est digne de notre confiance, et c'est important parce que j'ai besoin de savoir si je peux placer ma vie entre ses mains et le croire sur parole. S'il peut m'empêcher de tomber et achever l'œuvre qu'il a commencée en moi, si je suis en sécurité avec lui ou s'il va me lâcher en cours de route. L'exemple d'Abraham m'encourage à placer ma confiance en Dieu pour plusieurs raisons. Dieu est digne de confiance, premièrement parce qu'il n'existe personne dans l'univers qui soit plus grand et plus puissant que lui, et on sait aussi qu'il est la personnification de la vérité. Il ne peut pas mentir. Comme Dieu n'est pas capable de nous tromper ou d'agir de façon contraire à sa nature, tout ce qu'il dit est vrai et tout ce qu'il fait est juste. Il tiendra donc toutes ses promesses car elles reposent sur son caractère. L'apôtre Jacques écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quand l'Éternel a dit au père Abraham, « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance », il lui a juré qu'il tiendrait sa promesse, mais ce n'était pas en raison de son obéissance, car dans tout ça, Abraham n'était qu'un spectateur obéissant. Si Dieu tient sa promesse, c'est parce qu'elle émane et repose sur son caractère. C'est ça qui garantit son accomplissement. En ce qui nous concerne, Dieu a promis à tous ceux qui viendraient à lui par son Fils qu'ils auraient la vie éternelle. L'apôtre Jean écrit, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole personnifiée en Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ce n'est pas un peut-être, mais une certitude. En second lieu, nous pouvons placer notre confiance en Dieu parce qu'il ne cherche pas à satisfaire un caprice, mais vise des objectifs dignes de sa personne. Il a envoyé Abraham en Palestine parce qu'à travers lui, il voulait se manifester à un monde parti à la dérive et plongé dans l'idolâtrie. De toute éternité, Dieu désirait que ceux qu'il avait créés à son image le servent et l'adorent. Avec Abraham a commencé le plan de rédemption du monde. Par lui et au travers de ses descendants, tous les peuples de la terre seraient bénis. Israël, qui aurait dû proclamer le Dieu véritable, n'a pas rempli sa mission, mais Jésus, descendant d'Abraham, est venu pour offrir en sa personne le sacrifice parfait afin que par lui, l'humanité soit sauvée et le plan de Dieu réalisé. L'apôtre Paul écrit, « En Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. » Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Fin de citation. Dans ces passages, nos rites religieux, nos bonnes actions et notre fidélité ne sont pas mentionnés. Dans le plan souverain de Dieu, nous ne jouons aucun rôle. C'est lui qui décide et qui fait tout.